en quête d'humanité. Nous sommes à l'automne 2019. La pandémie n'est pas encore dans le corps et la tête des gens. Mais le monde ne va pas bien pour autant.
On radiographie un peu tous les êtres humains. Il n'y en a pas beaucoup qui sont adultes finalement.
La société, c'est jamais que les rapports que les gens choisissent d'avoir entre eux. Ce ne sont pas toujours des choix percutants.
C'est à cette période que chacun, dans son parcours de vie, a ressenti le besoin d'aller au-devant d'autres personnes, recueillir des réponses.
Je ne sais pas que je cherche une vie sans combat, mais je ne cherche pas une vie de colère et de rébellion. Je cherche une vie constructive.
Je suis ce qu'on pourrait dire un pessimiste joyeux.
Ce qui me définit aujourd'hui le plus, c'est l'amour.
Moi, je trouve que la curiosité est un bon moteur.
Ils ont parlé de moi à d'autres personnes en disant « on connaît un chaman ».
Waouh ! Est-ce que dans un an, je vais encore voir toute cette beauté ?
C'est dans les vallées du Couserans, à l'ouest du département de l'Ariège, que nous rencontrons 15 habitants de ce territoire montagneux. De la notion d'humanité au sens que chacun donne à la vie, une quête de réponse unique et sincère.
Moi, j'ai confiance en ce qui va se passer, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai confiance.
Je préférerais danser pour le sens de la vie que me battre ou lutter.
Une série en 8 épisodes. 4e épisode, dans le Haut-Salat et le Saint-Gironnais.
Donc, je m'appelle Karine. J'ai 47 ans. J'habite en Ariège et je suis journaliste de profession, mais plus journaliste pour un média. J'ai développé mes compétences autrement auprès d'autres publics. Et ce qui n'a pas changé, en revanche, et ce qui est toujours mon moteur depuis toujours, c'est la curiosité que j'ai des autres.
Ça fait combien de temps que tu es en Ariège, Karine ?
10 ans.
Et tu viens de quelle région ?
D'où je viens, j'ai beaucoup bougé, donc je ne me sens pas attachée à une terre en particulier. Mais avant d'être en Ariège, je travaillais à Paris.
Et qu'est-ce qui a motivé ton arrivée ici en Ariège ?
La fin d'un cycle, j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire à Paris. À ce même moment, et peut-être que ça a été aussi déclencheur, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis tombée enceinte, et très vite, Paris n'était plus du tout le contexte, l'environnement approprié à ce que je souhaitais créer autour de cette nouvelle famille. Ce qui a déterminé le choix de l'Ariège, c'est un attachement à cette terre, pas tout à fait filiale, mais pas loin. En fait, moi, j'avais passé une partie de mon enfance ici. On a toujours une maison de famille à Massat. Et mon conjoint est arrivé ici quand il avait 7 ans. Sa famille est ici, en grande partie. Donc ça nous semblait évident, en quittant la ville, et avec cette envie quand même de se rapprocher d'une nature plus belle, plus présente, de tenter le coup ici. Et on n'a jamais vraiment regretté en fait ce choix-là depuis 10 ans.
Qu'est-ce qui te touche ici, sur ce territoire ? À quoi tu es sensible ?
Aux gens, à tous ces parcours, à tous ces chemins en fait qui mènent à l'Ariège, à cette quête de sens qui relie quand même beaucoup de gens ici, au temps qu'on a, en théorie, parce que dans les faits, des fois, le temps passe aussi vite qu'ailleurs, mais qu'on a, en théorie, pour réfléchir à nos choix, à ce qui est important. Je trouve que c'est une terre qui porte ça. Et c'est un endroit avec une telle richesse en termes d'expérience, de profil. J'ai appris beaucoup en rencontrant les gens ici.
Et à ton avis, qu'est-ce qui génère cette richesse ? Est-ce que c'est le territoire lui-même ? Ou bien ça vient des gens, comme tu le dis, parce qu'apparemment c'est les gens qui te touchent ici, les parcours des gens.
Mais ces gens sont, je pense, pas là par hasard, donc c'est lié à la terre, c'est lié à ce qu'on voit, c'est lié au paysage, c'est lié à un côté rustique, authentique, qui permet justement un retour à soi, qui est intéressant, et j'ai l'impression quand même qu'on est tous un peu dans cette dynamique et cette démarche de remettre en question soi et comment on fonctionne dans le monde. Donc je pense que c'est pas... La Terre induit ça aussi. La géographie induit ça aussi.
Tu penses que la Terre, la géographie peuvent agir sur, sur l'homme et inversement ?
J'ai pas ressenti ça, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont témoigné du fait que cette Terre imprimait quelque chose en eux, presque physiquement en fait. Je suis ouvert aux dimensions mystiques, mais moi c'est pas quelque chose que j'ai ressenti dans ma chair. En revanche, je sais que je me sens bien ici et pleine de quelque chose qui me va bien à cette période de ma vie. J'en ai oublié la question.
Puisque tu parlais des gens en général et de leur parcours qui te touchent, je voudrais t'amener vers la notion d'humanité. Si je te dis ce mot, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'est-ce que tu m'en dirais ?
C'est une quête. Plus d'humanité ferait du bien à toute l'humanité. C'est des questions... ça touche l'existentiel, ça touche le monde aussi dans lequel on vit et comment on veut qu'il évolue pour que l'humanité, justement, puisse continuer à se développer. J'ai un fils, donc cet avenir m'importe, évidemment. L'humanité, c'est tous... tout ce qu'on forme tous ensemble, et toutes les questions qui sont importantes pour chacun, parce que je pense que plus on est précis dans ce qu'on interroge, plus on est universel. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a des sujets qui sont communs à chacun, qu'on habite ici en Ariège, qu'on habite à l'autre bout de la Terre, qu'on vive dans un confort... démesuré ou qu'on vive dans la plus sommaire des conditions, je pense que l'humanité, ça touche tout le monde.
Et la valeur essentielle de cette humanité pour l'humanité, ce serait laquelle pour toi ?
L'empathie. Moi, je trouve que la curiosité est un bon moteur et une bonne valeur. Si on est curieux des autres, dans ce qu'ils sont, on n'est pas dans le jugement, on accepte. Donc oui, l'empathie, l'acceptation des différences, une forme d'ouverture. Mais je continue à travailler sur tout ça. Et je trouve que c'est un chemin qui est passionnant.
Alors, tu as prononcé le mot quête deux fois, je crois, déjà. Et justement, je voudrais t'amener vers la vie et le sens de la vie. Est-ce que tu donnes un sens à la vie ? Est-ce que la vie a un sens pour toi ? Quelle dimension ça prend ? Quel chemin ça prend ?
Là, tout de suite, comme ça. Le sens de la vie. Merci, Marie. C'est vachement sympa. Le sens de la vie... Alors, j'ai eu l'impression longtemps que tout se faisait au fil de l'eau. Quand je pense sens, moi je pense début du chemin et un objectif à atteindre, quelque chose qui soit un peu tracé, ou qu'on imagine en tout cas. J'ai longtemps vécu dans l'insouciance. Ce sens, je sais pas répondre à quel est le sens de ma vie. Je sais que ce sens-là, en tout cas, je sais pas à quoi il ressemble. Je saurais pas le décrire très précisément. Je sais qu'il a beaucoup évolué à la naissance de mon fils, que les choses ont pris un autre sens, justement, avec plus de conscience du temps. Et ça a forcément modifié le sens, mais je sais pas quelle forme, je saurais pas te dire quelle forme ce sens a là aujourd'hui. J'essaye de profiter, j'essaye d'être le plus possible. Je suis pas que dans l'instant, malheureusement. Ça aussi, ça peut faire partie des choses que je cherche. Me libérer des projections qui souvent sont un peu toxiques, je trouve. Je sais pas trop vers quoi je vais. J'essaye de faire au mieux.
Là, tu parles du sens de ta vie. Mmh. En règle générale, je veux dire, est-ce que tu penses que d'être ici a un sens pour chaque individu, par exemple ? Chaque individu va donner une forme, plus ou moins,
ouais,
à sa vie, va donner plus ou moins un sens. Mais en règle générale, est-ce que tu penses que voilà, être ici, être présent dans ce monde, a un sens ?
C'est difficile de se prononcer au nom d'un groupe. Et puis on cherche pas tous les mêmes choses. Est-ce qu'on on peut vivre sans quête de sens? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te répondre à ça. Parce que je pense que c'est des questions qui sont très personnelles, non? Moi, j'ai besoin maintenant que les choses aient du sens. Mais c'est pas forcément ce que je cherche. Je me rends compte que je vais vers ça. Et parfois, c'est inconscient. Mais je suis représentative de rien à part de moi-même. Je sais pas parler plus généralement que ça, en fait. Évidemment, pour moi, c'est intéressant d'aller vers plus de sens.
Alors, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi pour penser à un monde en évolution, un monde en transformation. Comment tu te situes? Déjà, comment tu le vois, ce monde? Est-ce que tu le sens en transformation? Vers quelle transformation, à ton sens, il va? Comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu sens que tu y participes? De quelle façon? Et comment, justement, dans ce monde en évolution, on peut allier la notion d'humanité, qui est la tienne?
Ça commence à faire beaucoup de questions, mais...
Et la notion de sens, oui. Et la notion de sens, qui est la tienne. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, si tu veux.
Évidemment que j'ai l'impression d'être actrice de ce monde. Et d'autant plus, depuis que je suis ici, et que j'ai rencontré pas mal de contraintes par rapport à la vie concrète en Ariège, et surtout la vie professionnelle, comment arriver à continuer à fonctionner ici, à trouver du plaisir, mais aussi à trouver de l'argent. Ça m'a forcé, ces contraintes-là, à repenser mes compétences, à les redéployer autrement. Et j'ai, dans ce cadre-là, rencontré des gens qui ont été source d'inspiration vraiment, et source d'espoir par rapport à ce vers quoi on va. Parce que ce sont des gens qui ont une vision, et un collectif qui a une vision des relations qu'on peut avoir dans le travail ou ailleurs, qui sont de l'ordre de l'intelligence collective, qui en tout cas titille ça, cette question-là de l'intelligence collective, de la mutualisation des moyens, donc d'une pensée qui est radicalement opposée à ma culture, et pas que la mienne, j'ai l'impression, même au sens d'une société dans son fonctionnement encore général. Mais j'ai l'impression que cette façon de voir le monde, de se dire qu'on peut plus continuer à fonctionner en tant qu'individu, qu'on doit repenser les choses, les partager, qu'ensemble on est plus fort, que ça a plus de sens, j'ai l'impression que ce mouvement-là, il est quand même bien amorcé, et qu'on n'est pas du tout les seuls à se dire que c'est vers ça qu'il faut aller, et même qu'en fait on n'a plus le choix, que c'est le seul chemin qui sera possible, parce qu'on peut pas éluder la réalité écologique, la réalité aussi du fait que si on continue à, notamment à consommer, à penser le monde comme on l'a pensé depuis je sais pas combien d'années, mais en tout cas dans lequel moi j'ai toujours vécu jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, si on repense pas ce monde-là, évidemment on va dans le mur. Et moi j'ai trouvé beaucoup de richesses, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à essayer de contraindre ma propre culture et à ouvrir les portes, à ouvrir le cœur, à ouvrir ce que je sais faire en me disant que la vraie richesse, elle est dans le partage. Elle n'est pas à essayer de mettre le bras sur sa feuille pour pas que à côté on copie. Donc c'est vraiment d'aller vers un autre schéma, une autre façon de faire. Et je continue à travailler là-dessus. Je continue à développer maintenant des projets qui fonctionnent comme ça. Et je trouve ça... Je suis jamais dans ma zone de confort. Mais je trouve que dans ces contraintes-là... Et pas que dans ces contraintes-là, parce que ça ne génère pas que des contraintes. Il y a beaucoup de belles choses à trouver. Ça n'a peut-être pas répondu à toutes les questions.
Si, si. Est-ce que tu te sens heureuse, Karine?
Là, très précisément, tout va bien. Ça dépend des moments. Je me sens à ma place. C'est déjà pas si mal. Et j'ai plein de moments dans ma vie où je me sens tout à fait épanouie.
Et est-ce que tu as un rêve ?
Non. J'ai pas quelque chose de tout fait comme ça qui m'anime. Si on part du principe que le rêve est quelque chose de concret, tangible, accessible, je rêve évidemment de voir mon fils adulte, épanoui, heureux. Les rêves que je peux formuler, en tout cas là, le concernent lui particulièrement. Pour moi, je sais pas si ça m'intéresse trop de rêver pour moi, en fait. Il faut ?
Non,
c'est pas obligé.
Non, non, c'est pas une obligation.
Okay.
Non, non, pas du tout. Non, non. S'il y avait une chose de laquelle il ne faudrait pas que tu t'éloignes, là, aujourd'hui, ce serait laquelle, justement ?
De moi ? Mais en même temps, on a tous des paradoxes. Tout ça s'ajuste aussi au fur et à mesure. Je peux pas dire que je suis tout le temps en accord avec moi-même, mais j'essaye quand même de rester proche de ce qui m'anime vraiment dans le fond, de mes valeurs. Je lâche pas beaucoup mes valeurs. Mais des fois, on peut être un peu en désaccord avec soi, mais il faut composer avec les autres, donc c'est pas toujours aussi... Enfin, la question ne concerne pas que nous, bien souvent. Mais j'essaye quand même de garder cette barre-là. Et dans ce moi, ça englobe tout ce qui est important pour moi, en fait. Donc ça englobe plein d'autres choses qui vont évidemment au-delà de moi. Je voudrais pas... J'ai pas l'impression d'être particulièrement égaux quelque chose. Mais oui, j'essaye de rester en cohérence avec ce que je suis, au fond, et en surface.
Et enfin, la dernière chose, tu as carte blanche pour nous dire avec tes mots, ou nous montrer avec un objet, ou danser, ou chanter. Enfin, c'est tout là,
non.
C'est vraiment carte blanche.
Alors, ouais, okay.
Qu'est-ce qui, là, tout de suite, sans trop réfléchir, te définirait le mieux ?
Ce qui me définirait le mieux, c'est de te poser des questions à toi. Parce qu'en fait, je suis arrivée à ce rôle de la personne qui pose les questions, un peu par hasard, sauf qu'évidemment, il n'y a pas trop de hasard, et qu'en fait, ce qui me définit le mieux, c'est cette relation avec les autres, que je crois arriver à instaurer, et la qualité d'écoute que j'ai. D'où peut-être la gêne sensible dans cette posture-là de la personne interrogée, qui est évidemment pas du tout... Et facile et confortable pour moi, même si toutes les conditions là sont réunies pour que ça se passe bien quand même. Mais moi, je suis peut-être aussi, parce que c'est aussi une façon de se planquer un peu, celle qui interroge, celle qui écoute. Et je sais que c'est pas trop le lieu, mais en tout cas, c'est cette posture-là qui me définit. C'est voilà, quelqu'un qui est en capacité de prendre le temps et... Et c'est pas de la posture, c'est un véritable intérêt que j'ai pour les autres. C'est ça qui, voilà. Et pour mon cercle proche comme pour l'humanité.
Super, merci Karine de terminer sur ce mot.
Merci à tous les deux.
Michel Joly, j'ai 71 ans, j'ai pas toutes mes dents, et je viens alors physiquement d'Île-de-France, à côté de Paris, je suis né à Argenteuil, après, et énergétiquement, je pense que je viens d'ailleurs, comme beaucoup d'humains d'ailleurs. Quitté cette région en 73, donc ça fait, j'ai passé quand même une grande partie de ma vie en Ariège.
Tu avais quel âge quand tu es arrivé en 73?
J'avais 24 ans, un peu passé.
Et tu faisais quoi dans la région parisienne?
Ben, j'étais menuisier, charpentier. Je fais différents métiers, hein, mécanique, je touche un peu à tout. Voilà.
Et quand tu es arrivé en Ariège, tu as continué ce métier-là?
Oui, c'est-à-dire que je suis arrivé en Ariège. J'ai été forestier pendant 5 ans. Donc, j'ai fait la filière bois jusqu'à la graine. Donc, j'étais dans la filière bois pratiquement toute ma vie, quoi. Je suis retraité depuis 11 ans. Donc, j'ai pris ma retraite à 60 ans en 2008. Et j'ai continué toujours l'activité bois.
Et alors, depuis ta retraite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé des choses, d'ailleurs?
Tellement de choses. Faut dire, entre deux, j'ai pratiquement 10 ans de botanique. J'ai fait 10 ans d'astrologie. Je me suis intéressé à beaucoup de choses, de la vie, de la nature, comment fonctionne l'être humain. Donc c'est très large. J'ai pratiqué aussi beaucoup la géobiologie.
Tu veux expliquer un peu ce que c'est?
Bon, il y a géo déjà. Géo, c'est la Terre. Logis, c'est un peu la science de la Terre. C'est tout ce qui n'est pas visible, les failles, les cours d'eau. Ça crée des perturbations pour la vie. Les cours d'eau, par exemple, et les failles, ça pompe l'énergie. Donc vivre sur des lieux comme ça, ça peut être perturbant au niveau de la santé. Ça peut créer des dépressions, des maladies. Donc la géologie permet de détecter ces lieux et de construire à côté. Ou si on construit dessus, on a des outils pour compenser. En mettant des assemblages de pierres, en faisant des ondes de forme. Et après, j'ai découvert le chamanisme qui s'est greffé par-dessus ça. C'est-à-dire que là, on touche aux mémoires ancestrales. On touche à des phénomènes psychiques très particuliers. C'est quelque chose qui m'est venu où j'ai dû rencontrer des gens qui étaient là-dedans, ça m'a interpellé. Je dirais, ce sont des choses qui sont venues me réveiller. Comme pour moi, on n'a pas qu'une vie, on a beaucoup de vie, et j'ai pratiqué beaucoup ça dans d'autres vies, et dans cette vie, j'avais pas envie, parce qu'il y a eu des passés difficiles.
T'avais pas envie
de repratiquer.
Le chamanisme?
Ouais, ouais. Parce que, il y a eu des problèmes à l'époque, de torture, d'inquisition, de chasse aux sorcières. Donc cette mémoire, on est nombreux à l'avoir. Et donc j'avais pas tellement envie de repratiquer, inconsciemment. Mais c'est venu me réveiller, plusieurs fois, c'est venu me chercher. Jusqu'au jour où j'ai fini par accepter, et effectivement, je regrette pas parce que je me sens beaucoup mieux. Depuis qu'on est ici, je sais qui je suis, et je sais que ce que je fais, ce qui m'est amené de faire, c'est juste. Là, je me sentirais pas bien.
Et du coup, qu'est-ce que tu fais exactement?
Depuis qu'on a installé le tipi, c'est tellement fort ce qui se passe dedans. Rien que de rentrer dedans, tu sens qu'il y a quelque chose de très fort. Il y a une énergie très puissante, une énergie de paix, de sérénité. Ça me connecte à mes mémoires amérindiennes, parce que j'en ai eu. Et voilà. Alors sans faire du copier-coller, de imiter les Indiens, ça s'est trouvé comme ça. Mais c'est ma source d'inspiration. C'est un jour, des gens m'ont dit, tiens, ils ont parlé de moi à d'autres personnes en disant, on connaît un chaman. Ok. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. C'est un peu un fourre-tout. Hein. Ouais. Et finalement, avec le temps, j'ai fini par accepter, parce que finalement, ça a un sens.
Ça prend du sens?
Ça prend du sens. C'est spécifique aux peuples natifs. Partout sur la planète où il y a des peuples anciens, il y a des chamans. C'est des hommes médecine. C'est des guérisseurs, c'est des gens qui ont des connexions spirituelles, ce sont des sages. Voilà.
Quand je te dis ce mot-là, humanité, qu'est-ce qui te vient? Ta définition, qu'est-ce qui te vient là?
Ouf, très compliqué. Franchement, je ne saurais pas quoi en dire. Parce que moi, je vois deux choses. Il y a l'humanité qui est liée au système, comme il fonctionne, système économique. Je me sens de plus en plus étranger à ce monde-là. Et il y a l'autre humanité, qui sont très proches des peuples natifs, d'ailleurs, qu'on a ici. Tous ces gens qui sont partis de la ville et de cette humanité en question, qui viennent retrouver cette autre source fondamentale. Et là, je sens qu'il y a une séparation entre les deux. Alors j'arrive à avoir des relations correctes avec les gens de cette humanité qui n'est pas la mienne. Je sens qu'avec le temps, ça devient difficile.
Qu'est-ce qu'est-ce que tu dirais de cette, tu dis cette humanité qui n'est pas la mienne, elle n'est pas la tienne, en quoi?
Comment dire ça? Je dis au niveau spirituel, au niveau des racines profondes. En même temps, je me suis incarné là, pas par hasard. Mais à un moment donné, je me suis demandé si je m'étais pas craché en arrivant ici. Ça a été difficile. Avec le temps, je navigue là-dedans. J'arrive à vivre avec, hein, quand même. C'est pas aussi grave que ça, mais c'est pas facile.
C'est-à-dire, tu navigues entre quoi et quoi?
Entre mon humanité que je vis ici avec toute cette fraternité qui s'est mise en place, et ceux que j'appellerais de l'extérieur, qui vivent dans les grandes villes, tout ça. En même temps, il y a beaucoup de gens qui viennent de la ville, qui viennent nous voir ici. Donc il y a quand même des connexions. C'est des gens qui sont entre deux. Il y en a beaucoup qui sont dedans et qui cherchent inconsciemment une sortie pour vivre autrement, plus nature. Ils savent pas comment faire.
Est-ce que tu dirais que dans ce que tu appelles l'autre humanité, celle qui te correspond pas, il y a le germe tout de même de l'humanité qui te correspond?
Oui, oui, il y en a. Et c'est qu'il y a deux extrêmes. Pour moi, il y a ceux qui sont à fond en accord avec le système, avec tout ce qu'il y a de négatif, de malsain, de destructeur. Et il y a l'autre humanité avec laquelle je me sens proche, où on va vers quelque chose de plus harmonieux, une recherche d'élévation spirituelle. Et entre les deux, il y a ceux qui savent pas où aller. Ceux-là, eh ben, ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre.
Voilà, le monde dans lequel on vit se présente comme il se présente, là, ouais. En transformation, en évolution.
Complètement.
Comment tu vois cette évolution? Comment tu la ressens? Est-ce que tu sens une transformation? Ouais. Et comment tu participes? Est-ce que tu es partie prenante de l'évolution?
Ah, totalement. Je crois que c'est ma raison de vivre. J'aurais pas cette conscience de ce qui vient, de l'évolution. Je crois pas que je serais dans cet état-là. Parce qu'avec mes difficultés physiques, le Parkinson et autres, je serais plutôt légume. Mais là, ça me donne une motivation et j'arrive à transcender.
Et du coup, pour toi, c'est une évolution qui va dans quel sens?
Pour moi, c'est clair. Il va y avoir une séparation. Il va y avoir des choses difficiles à vivre. Et il va y avoir des dégâts, il va y avoir des catastrophes. Je veux pas rentrer dans le catastrophisme. C'est une réalité. En même temps, je suis optimiste quant à ce qui vient. Mais pour moi, il va y avoir une séparation.
Entre quoi et quoi? Et
ben, entre ceux qui sont en accord avec le système, mais en même temps, ils le subissent. Je dirais, pour utiliser les termes que j'utilise souvent, moi, sur cette terre, il y a deux types d'humains. Il y a les créateurs et les créatures. La créature subit. Et le créateur, il est acteur. Il est acteur de sa vie. Il a la maîtrise de sa vie. Ceux qui subissent pas, qui veulent être acteurs, qui ont des idées alternatives, qui sont prêts à l'aventure, ils vont arriver à s'en sortir. Les autres, je ne sais pas où ils vont aller, mais en tout cas, pas au même endroit que moi. Ça, c'est sûr.
Ce que tu proposes, devenir créateur, en quoi ça va être important pour le monde futur?
L'autonomie, être des créateurs, avoir la maîtrise de soi-même. C'est-à-dire, la notion d'être maître, c'est être maître de soi, pas maître des autres. Chaque individu qui devient maître de lui-même, qui devient autonome, qui rayonne, qui contribue, il est dans la joie, dans l'amour, il est autonome, quoi. Après, on a besoin des autres parce que ça fait du bien, ça donne la force, mais intrinsèquement, l'être est indépendant. Donc, pour moi, le but, c'est ça.
Indépendant, autonome, ça signifie pour toi qu'il n'y a pas la relation avec l'autre?
Si. Il y a une interconnexion. C'est comme dans les couples. Pourquoi dans les couples, ça merde souvent? Parce que il y a inconsciemment, d'un côté comme de l'autre, des attentes inconscientes auxquelles l'autre ne peut pas répondre. Ça pose problème. Parce que les êtres ne sont pas autonomes. Mais quand l'être est autonome dans son couple, il n'y a pas de problème. Il n'a pas d'attente. Il vit ce qu'il a à vivre avec sa compagne ou son compagnon. Donc je pense que pour les humains, l'humanité, c'est pareil. Quand on n'a pas d'attente, qu'on est heureux, on est dans la joie, ça marche, quoi.
Et alors, Michel, qu'est-ce que c'est pour toi le sens de la vie? Qu'est-ce que ça a été, peut-être, à une époque? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quel sens tu donnes à la vie? Si tu donnes un sens à la vie.
Ouais. Oui, pour moi, c'est un sens maintenant. Avant, ça n'en arrivait pas. J'ai mis du temps à être heureux d'être sur Terre. vu le parcours. Et maintenant, c'est un sens. C'est une contribution à ce qui vient, à l'épanouissement de l'humanité, de tout. Je dirais même au niveau global, à l'expansion de l'univers. À notre petit niveau, on contribue à l'expansion de l'univers. C'est une notion qui est connue de la physique quantique. Et ben, nous, on en fait partie. On part de ça au niveau des molécules atomiques et autres de l'univers. Mais nous, on est quoi là-dedans? On est des éléments vachement importants. Donc, le fait de devenir des créateurs, de devenir des, je dirais, pour utiliser un terme qui peut déranger, des dieux et des déesses, c'est-à-dire des êtres indépendants, on contribue à l'expansion de l'univers.
Et l'expansion de l'univers, ça signifie quoi pour toi?
C'est un concept qui est trop vaste. C'est, l'univers est en expansion. C'est ce que les scientifiques disent. Après, je n'ai pas été voir.
Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait en quête de sens dans la vie?
Mais déjà, je pourrais l'inviter dans le tipi à se poser, à observer ce qu'il y a dedans, et puis à éventuellement lui proposer une petite session de tambour, parce que ça détend. Tous les gens qui encore hier, j'ai eu une session, quand je demande aux gens comment ils se sentent, détendus. Et après, ben, on peut partager. Moi, je peux proposer ce que je sais, par rapport à mon parcours, donc leur répéter tout ce qu'on a évoqué là. Et je me rends compte que ça, pour beaucoup de gens, ça les a vachement ouverts. Surtout chez les femmes. Quand je reprends la notion ésotérique de la lune et du soleil. L'homme est associé au soleil et la femme à la lune. Seulement, je leur dis, il y a un problème, parce que la lune est un reflet. Elle n'a pas de rayonnement propre. Et en plus, elle est satellite. Donc moi, je ne peux pas admettre que la femme soit ça. Donc la femme, elle fait partie de la même énergie que l'homme, au départ, l'énergie christique. Et alors, quand je leur explique tout ça, c'est un peu complexe, je vois le visage qui s'illumine. Elles retrouvent leur place. Et ça, c'est fort.
Est-ce que tu te sens heureux?
Maintenant, oui. Maintenant, oui, depuis que je suis ici, sur ce lieu, je me sens libre. Et avec Bénédicte, on s'est mariés ici, donc, dans ce tipi, il y a un peu plus d'un an. Et pour moi, ça a été une consécration. J'ai tout pour être heureux. Beaucoup d'amis, beaucoup de frères et sœurs. C'est une grande famille qui se reconstitue, qui n'a rien à voir avec la famille génétique. C'est la famille de cœur.
Est-ce que tu as un rêve?
Mais c'est vrai que je ne me pose pas ces questions-là. Comme je suis quelqu'un qui vit les choses au fur et à mesure que ça vient, si, je crois que mon rêve profond, c'est d'arriver à être heureux, que l'humanité soit heureuse, qu'on vive dans l'harmonie, dans la lumière. Une bagarre de chat. Ça fait partie du décor. Éviter ce genre de truc chez les humains. Je trouve cette synchronicité est intéressante. Voilà. Je crois que mon rêve, en gros, c'est ça, quoi.
Et puis, maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est s'il y a une chose dans la vie ou quelque chose dont il ne faudrait pas que tu t'éloignes, ça serait quoi?
Je vois ce que c'est, il faut que je trouve le mot. Mais c'est tout ça, finalement. C'est cette authenticité, être dans le cœur, pas forcément avoir d'attente non plus. Ben, c'est en gros ce que je vis ici. Quoi. Pas s'éloigner de l'authenticité. Il y a trop d'artifices dans ce monde. Ouais, moi, pour moi, c'est ça, rester proche de cette authenticité. Pas toujours évident. Là, entre nous, c'est facile. Mais dès qu'on va à l'extérieur, quand tu es vraiment toi-même, surtout quand on vit comme on vit ici, il y a des gens qui sont pas toujours à l'aise. Mais bon, ça me dérange pas.
Parce que cette authenticité, du coup, ça apporte quoi? Ça te pose comment?
Ah, moi, ça m'apporte plein de bonheur. Ça m'apporte beaucoup de retours. C'est ce qui plaît aux gens. C'est pour ça qu'ils viennent ici. Il n'y a pas d'artifice. Ils se sentent libres. Il n'y a rien qui est imposé. Et du coup, ils peuvent s'épanouir. Et apporter leur contribution. Ce qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Où on est contraint par toutes ces lois, par toutes ces... Il faut des trucs absurdes. Ici, on n'a pas besoin de ça.
Tu pourrais me définir, est-ce que c'est l'authenticité finalement? Ça tient en quoi, l'authenticité d'un être humain?
Ben, être soi-même, c'est facile à dire. Mais je me rends compte, avec le temps et les échanges avec les gens, c'est pas si simple. Être soi-même,
Bon, je pousse un peu, et être soi-même, ça touche à quoi, du coup ?
Ça touche profond, en fait. Parce qu'on est, on vit dans un monde où il y a plein d'artifices, plein de stimuli, et on se cache à travers tout ça. Le bruit, la musique, la lumière, et plein d'activités, et du coup, on n'est pas nous-mêmes. Et puis, je me rends compte, les gens parlent peu d'eux-mêmes. Ou quand ils parlent d'eux, c'est pour dire « moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Moi, quand je parle de moi-même, c'est par rapport à ce que je ressens, ce que je vis. Et dans les échanges que j'ai avec les gens qui viennent me voir ici, je parle de moi, mais pour parler de mon expérience de vie. Parce que j'ai pas d'autre expérience. Il y a des gens qui se réfèrent à un tel, à un tel. T'as des auteurs de ci, de ça. Moi, ça me parle pas. Ce qui me parle, moi, c'est ce que j'ai vécu. Mon expérience. Donc, je transmets que j'ai vécu. Voilà.
Tu peux nous montrer un objet, ou nous dire, ou pas, quelque chose, une chose qui te définit là aujourd'hui, tel que tu te sens là aujourd'hui, tel que tu es. T'es même plus la même personne qu'on a vue il y a un mois.
Ça évolue tout le temps.
Voilà. Donc aujourd'hui, ce serait quoi ?
Déjà, ce symbole, ça s'appelle une fleur de vie. C'est des symboles qui sont géométriques et qui ont une réalité dans l'univers, dans certaines planètes, dans certains cycles. Quand on retrace leur cycle, on a des images qui ressemblent à ça. Ça s'appelle les fleurs de vie. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai mis, peut-être pas par hasard. J'en aurai d'autres symboles qui me parlent.
Mais aujourd'hui, c'est celui-là.
C'est celui-là. La prochaine fois, il y en aura un autre.
Et il te définit comment ?
Je me sens faire partie de cet ensemble. Je me sens pas séparé de l'univers. Alors que beaucoup d'humains se sentent séparés. Et c'est ce qui fait leur mal-être. Et moi, je me sens pas séparé, je me sens unifié à tout. Aux arbres, à la nature, aux plantes, à tout ce qui se passe au-delà de nous. Et puis à tous les êtres. En général, mais surtout avec ceux qui viennent ici, avec qui je me sens bien. Voilà.
Donc, ce qui te définit aujourd'hui, c'est la fleur de vie.
Voilà.
Merci, Michel.
Avec plaisir.
Merci à Maria, Bart, Marie-Hélène, Michel, Alain, Marion, Claude, Méline, Anselme, Nelly, Pierre, Jala, Yves, Karine et Marc.
Merci à Jean-François, Thierry pour leur participation musicale.
En quête d'humanité, une collecte de paroles par Marie Chandelon et Christian Lebon. Prise de son, montage et réalisation, Christian Lebon.